Vous écoutez On lit pour vous.
Des jeunes victimes de fraude nous racontent leur histoire. Un texte de Judith Lejeune, paru le 8 octobre 2024 dans Urbania. 4,95 et la Banque nationale s'unissent pour vous aider à adopter des habitudes plus sécuritaires en ligne et vous permettre de protéger vos données. Selon moi, la personne la plus susceptible d'être victime d'une fraude en ligne est sans doute ma mère. Femme d'une grande bonté, début soixantaine, célibataire, elle ne maîtrise pas tellement les nouveaux outils technologiques. Je ne compte plus les coups de fil qu'elle m'a passés en panique pour me dire que sa plateforme de visionnement préférée allait annuler son compte si elle ne leur donnait pas son numéro de carte de crédit, ou pour m'expliquer qu'après avoir vendu un meuble, elle devait payer pour qu'une compagnie vienne le ramasser et l'apporter à son nouvel acheteur. Ça, c'est sans parler de tous les faux profils sur lesquels elle tombe sur les réseaux de rencontres et des personnes qui lui envoient des demandes d'amitié pour finalement tenter de lui soutirer ses données bancaires. J'ai même déjà parlé au téléphone avec l'une d'elles pour lui dire de la laisser tranquille. Bref, vous voyez le topo. Cela dit, en m'intéressant davantage au sujet, je me suis rendu compte que les jeunes de mon âge ne sont pas à l'abri, eux non plus, de ce genre de fraude. Se faire prendre sur les réseaux sociaux. Florence est une adepte du magasinage en ligne. Et, comme toute vingtenaire qui se respecte, elle court les soldes. Un jour, elle voit alors passer sur les réseaux sociaux une publicité d'une bouilloire d'une marque très prisée qu'elle convoite depuis longtemps. À prix courant, elle est hors de mon budget, m'explique-t-elle. Elle clique donc sur l'annonce et est aussitôt redirigée vers un site web d'une grande entreprise de vente au détail, bien connue du public. Le site web ressemble en tout point à l'original. Elle passe donc sa commande en entrant son numéro de carte de crédit, son adresse courriel. Quelques jours plus tard, en vérifiant son relevé de carte de crédit, elle voit qu'elle a été débitée de plus de 300 $. C'était environ 5 fois le montant que je croyais avoir payé pour ma bouilloire, s'étonne-t-elle. Elle contacte donc immédiatement sa banque pour faire annuler la transaction et bloquer sa carte de crédit. Bien que ces informations bancaires aient été changées depuis, les criminels sont toujours en possession de ces autres informations. Je vois encore plein de publicités de ce type sur les réseaux sociaux. Maintenant, je les signale toujours. Juste ce matin, j'en ai vu 3, raconte Florence. Étienne, lui, s'est fait prendre lors d'une recherche d'appartement pendant la pandémie. En ligne, lui et son colocataire en trouvent un super, chouette, qui leur plaît. Ils communiquent avec le propriétaire qui dit habiter Rimouski. Pour s'assurer qu'il ne fera pas la route pour rien, le propriétaire demande l'équivalent d'un mois de loyer pour se déplacer. Étienne et son coloc font donc un virement, avec un mot de passe qu'ils ne donneront au propriétaire qu'après la visite de l'appartement, s'il signe le bail. Le propriétaire les informe toutefois ne pas avoir reçu le virement. Ils font donc un deuxième virement, à la suite duquel Étienne reçoit un courriel de la part d'Interact, lui demandant de confirmer qu'il a bel et bien fait un virement au propriétaire en donnant son courriel ainsi que son mot de passe. Dans le feu de l'action, Étienne ne s'aperçoit malheureusement pas qu'il s'agit en fait d'un faux site. Quelques minutes plus tard, le propriétaire accepte le virement et c'est là qu'Étienne comprend qu'il vient d'être victime d'une fraude. En appelant la police, il apprend que son argent s'est rendu à quelqu'un au Cameroun. La police nous a dit que c'était fréquent, mais on s'est quand même fait frauder pour 1 550 $. Florence et Étienne ont été victimes de ce que l'on appelle une fraude par hameçonnage. Si une offre est trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Faites toujours preuve de vigilance quand vous magasinez en ligne ou lorsque vous recevez une communication qui tente de créer chez vous un sentiment d'urgence. Le piège de la carte de crédit. Ève se rend chez son garagiste pour y faire changer ses pneus. La facture est assez salée, 700 $. Quelques heures plus tard, sa banque l'appelle pour lui dire qu'elle a fait une très grosse transaction sur sa carte de crédit et lui demande de confirmer qu'il s'agit bien d'elle. Je pensais qu'on m'appelait suite à mon rendez-vous au garage. À l'autre bout du fil, on lui apprend qu'une transaction de 21 000 $ avait été effectuée sur un site de tarot à l'aide de sa carte de crédit. Au début, je pensais que c'était ça la fraude, l'appel de ma banque, puis ils m'ont expliqué que les institutions bancaires ne vont jamais te demander des informations confidentielles. À ce jour, elle ignore comment la fraude a pu se produire, mais l'hypothèse est qu'elle aurait cliqué sur un lien qui aurait installé un logiciel malveillant sur son ordinateur. Ce logiciel aurait ensuite permis à un cybercriminel de lui soutirer ses informations bancaires et d'effectuer des transactions. C'est vraiment difficile de déceler le vrai du faux. Parfois, tu fais juste cliquer sur une publicité par inadvertance et tu te fais prendre, m'explique-t-elle. Eve s'est probablement fait prendre par un site frauduleux. Prenez l'habitude d'accéder au site que vous voulez consulter en inscrivant vous-même leur adresse dans votre navigateur au lieu de passer par un moteur de recherche. Vol de données. Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises ont révélé s'être fait voler les données de leurs clients. Lorsqu'on fait partie du lot, il peut être difficile de comprendre l'étendue de ce que ça peut entraîner. Florence et Clément, ce dernier étant un de mes collègues chez Urbania, font partie des personnes dont les données pourraient avoir été utilisées par les cybercriminels qui ont commis les vols décrits plus haut. C'est en voulant consulter ma cote de crédit que j'ai réalisé que plusieurs demandes venaient d'un sous-traitant faisant des vérifications de crédit. Ça a été mon premier signal d'alarme, raconte Clément. Dans les semaines qui ont suivi cette prise de conscience, une banque l'appelle pour lui dire que quelqu'un essaie d'obtenir une marge de crédit à son nom. Il décide alors de prendre le taureau par les cornes et écrit à TransUnion et à Equifax. Je suis maintenant super protégé contre le vol d'identité. Maintenant, aucune demande d'information à mon nom ne peut être faite sans mon autorisation. J'ai même avec ma banque un mot de passe secret à dire de vive voix, plus une reconnaissance vocale. Une situation similaire est arrivée à Florence. À la suite du vol de ses données, elle s'est inscrite au programme d'Equifax qui protège contre les vols d'identité. Ce sont eux qui m'ont appelé pour me dire que des gens essayaient d'ouvrir des comptes bancaires et de téléphones cellulaires à mon nom en Colombie-Britannique. Même si elle était soutenue par sa banque et par Equifax, elle a dû faire elle-même tous les appels requis pour prouver son identité auprès des fournisseurs afin qu'ils annulent les requêtes. Clément et Florence ne sauront jamais vraiment si leurs données ont été utilisées à cause des vols de données ou parce qu'ils ont suivi un lien louche sur le web, parce que les sources sont souvent difficiles à repérer. Cela dit, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sur leur garde. C'était « Des jeunes victimes de fraude nous racontent leur histoire », un texte de Judith Lejeune paru le 8 octobre 2024 dans Urbania.
Dix choses qui fonctionnent au Québec, un texte de Nicolas Bérubé paru le 20 octobre 2024 dans la presse. Un chroniqueur d'un quotidien montréalais a posé une question intéressante l'autre jour. « Nommez-moi une chose qui fonctionne au Québec. Une. » Les majuscules sont de lui. Son argumentaire? L'actualité est remplie de scandales, d'exemples de corruption, les urgences des hôpitaux débordent, etc. Bref, les nouvelles sont déprimantes. Je vais mordre à l'hameçon. Voici 10 choses qui fonctionnent au Québec. 1. Les Québécois n'ont jamais autant épargné. Le taux d'épargne des Québécois est en progression constante et a même atteint un sommet en 2023, comme l'a écrit l'été dernier mon collègue Francis Vaille. Les Québécois mettent de côté 10,1 % de leurs revenus disponibles en moyenne. C'est presque deux fois la moyenne canadienne, selon les données de Statistique Canada. 2. Les agriculteurs font des revenus records. La production agricole atteint des sommets records au Québec et les revenus n'ont jamais été aussi élevés pour les agriculteurs. En 2022, les recettes monétaires agricoles tirées du marché atteignaient 12,7 milliards de dollars, en forte hausse de 15 % par rapport à 2021, selon le gouvernement du Québec. 3. La criminalité est en baisse. Tant qu'il y aura des crimes, il y aura des manchettes. Mais est-ce qu'on était plus en sécurité avant? Les chiffres nous disent que non. Malgré une légère hausse récemment, les crimes graves, crimes haineux, viols, meurtres, ont vécu une baisse spectaculaire dans la province depuis la fin des années 1990. C'est même au Québec que l'indice de gravité de la criminalité, IGC, est le plus faible au pays. Il s'établit à 54,3, alors que la moyenne canadienne est de 73,7. 4. Le taux de suicide est en diminution. Le suicide est un problème complexe qui est trop présent autour de nous. C'est aussi un problème qui est en diminution dans la société québécoise. Il y a 25 ans, le taux de suicide était de 22,1 pour 100 000 personnes, selon l'Institut national de santé publique du Québec. Le taux pour l'année 2021 était de 11,7 pour 100 000 personnes, une baisse de 47 %. 5. Les adolescentes ne deviennent plus mères. Les jeunes filles du secondaire qui deviennent mères sont un phénomène largement révolu. En l'an 2000, 14 adolescentes sur 1000 âgées de 15 à 19 ans avaient déjà accouché d'un enfant au Québec. En 2023, elles n'étaient plus que 4 sur 1000. Le taux d'interruption volontaire de grossesse, IVG, chez les adolescentes est également en baisse. 6. On n'a jamais vécu aussi longtemps. En 2023, l'espérance de vie à la naissance au Québec était estimée à 82,5 ans, selon l'Institut de statistique du Québec. Aux États-Unis, elle était de 77,5 ans. C'est donc dire qu'un enfant né au Québec aujourd'hui vivra en moyenne 5 années de plus qu'un enfant né au sud de la frontière. Une réalité en partie due au système de santé universel, à une population plus active physiquement et à un niveau moins élevé d'écart socio-économique. 7. Les Québécois n'ont jamais été aussi instruits. Environ 30 % des personnes âgées de 25 à 64 ans détiennent un diplôme universitaire au Québec, un pourcentage en hausse depuis des générations. En 1960, à peine un jeune adulte québécois sur 10 fréquentait l'université. Les Québécois n'ont jamais été aussi instruits qu'aujourd'hui. Parmi les titulaires de doctorat au Québec, la moitié, 50 % sont des immigrants ou des résidents non permanents. 8. Manger coûte moins cher qu'avant. On a tous remarqué les hausses de prix à l'épicerie ces dernières années. Ce qui frappe moins, c'est que le poids de l'achat des aliments dans le budget familial diminue depuis des générations. Selon l'Université Dalhousie, le pourcentage du revenu consacré à l'alimentation a baissé d'environ la moitié au Canada en un demi-siècle. Les Canadiens consacraient 19,6 % de leurs revenus à l'alimentation en moyenne en 1969, comparativement à 11 % aujourd'hui. Ça laisse de l'argent pour acheter des iPhones, s'abonner à Netflix, etc. 9. On respire de l'air plus pur. la qualité de l'air est bonne la plupart du temps dans les grandes villes du Québec. Il y a quelques générations, lorsque les gens chauffaient au bois et au charbon, l'air était atroce. Savez-vous pourquoi l'Université de Montréal a été construite sur les flancs du Mont-Royal au début des années 1930? C'est en partie pour être loin du centre-ville et de son air irrespirable. Au-dessus, un ciel immense. Autour de vous, l'air pur, s'enthousiasmait le recteur de l'Université de Montréal, Olivier Moreau, en parlant du nouveau campus. 10. Les heures travaillées diminuent. On en fait plus avec moins. Comme partout dans les pays riches, les heures passées au travail sont en diminution au Québec. En 1976, les Québécois passaient 35,5 heures par semaine à travailler, contre 31,8 en 2019, une diminution de 10 %. Si on remonte plus loin encore, le changement est plus frappant. Vers 1900, les gens travaillaient en moyenne 60 heures par semaine, réparties sur 6 jours. Et leur niveau de vie n'était qu'une fraction de ce qu'on tient pour acquis aujourd'hui. Je pourrais continuer longtemps comme ça. La leçon ici est que les problèmes seront toujours plus spectaculaires que les solutions. Des générations de Québécois ingénieux ont travaillé fort pour nous permettre d'avoir une meilleure vie qu'eux. Le moins qu'on puisse faire, c'est de le reconnaître. Je ne prétends pas que tout va bien. Ce serait réducteur et naïf de ma part. Mais se fier à l'air du temps et aux manchettes pour se faire une opinion de la santé de la province, c'est la recette parfaite pour passer son temps à s'indigner sur le sort de la société. Je ne souhaite ça à personne. Comme l'a écrit l'auteur Morgan Housel, le passé n'était pas aussi bon que vous vous en souvenez, le présent n'est pas aussi mauvais qu'il le paraît, et l'avenir sera meilleur que vous ne l'anticipez. C'était 10 choses qui fonctionnent au Québec, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 20 octobre 2024 dans la presse.
Le livre qui célèbre les familles queer du Québec. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, paru le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue. Marianne Jbatt vient de publier « Famille queer », édition du Remue-Ménage, un livre débordant de témoignages plus variés les uns que les autres sur la parentalité LGBT+, l'évolution historique de nos familles, la reconnaissance sociale, le soutien de la communauté, les enjeux de la procréation, la créativité de nouvelles cellules familiales, l'impact majeur de la coalition des familles LGBT du Québec dans leur vie et bien plus encore. Quel est le lien entre le livre, l'exposition et le balado conçu en lien avec les 25 ans de la coalition? L'année dernière, la coalition a souligné son anniversaire en organisant plusieurs activités, dont un vernissage dans lequel une trentaine de familles queer avaient été prises en photo à travers la province. J'en faisais partie. Quand on était photographié, il y avait aussi une entrevue qui allait servir à un podcast nommé « Pour moi, la famille ». Par la suite, Mona Greenbaum, la co-directrice de la coalition, m'a proposé d'aller plus loin dans l'analyse et d'écrire un livre avec tout le contenu accumulé pour faire briller encore plus les familles. Ce sont des projets différents. On ne redit pas les mêmes choses. La coalition a été témoin des changements non seulement dans la façon de créer des enfants, mais aussi dans les structures familiales. On peut commencer en parlant de la recomposition familiale. Les parents LGBTQ+, ne font pas exception aux familles hétéroparentales. Environ le tiers des parents queer se séparent, avec la possibilité de créer des recompositions familiales. Il y a aussi des familles pluriparentales dont le projet initial incluait déjà plus que deux parents. Au Québec, on ne peut pas faire reconnaître plus de deux parents sur un certificat de naissance, contrairement à d'autres provinces canadiennes comme l'Ontario et la Colombie-Britannique. Mais la pluriparentalité se retrouve parmi nos familles. Certaines d'entre elles sont aussi polyparentales ou polyamoureuses, avec des relations amoureuses et romantiques entre certains et certaines partenaires. Il y a aussi les donneurs qui deviennent parrains ou les femmes qui portent l'enfant ou donnent des ovules qui deviennent marraines, ainsi que les amis qui deviennent parents sans être dans une structure amoureuse ou sexuelle, et d'autres. Le livre témoigne de diverses réalités, sans nécessairement les comparer. On n'est pas tous égaux dans l'acronyme LGBTQ+. On a des défis généraux qui sont de l'ordre du système hétéronormatif. Ensuite, chaque personne vit des enjeux spécifiques selon ses réalités, surtout si elles sont minorisées sous d'autres axes. C'est important de reconnaître qu'il n'y a pas une homogénéité des défis rencontrés dans nos communautés. Peux-tu identifier un moment charnière dans l'histoire de la parentalité queer? L'année 2002 a été une étape cruciale dans la reconnaissance des droits des familles LGBTQ+ au Québec. À partir de ce moment, on pouvait retrouver deux parents de même genre sur un certificat de naissance. C'est un moment historique. Le Québec est un des premiers États dans le monde où cette possibilité n'était pas tributaire du mariage. Ça a placé le Québec comme un État idéal pour les personnes LGBTQ+, ce qui peut jouer en notre défaveur. Comme on a obtenu cette reconnaissance depuis bientôt 25 ans, tout semble acquis et certaines personnes peuvent se demander de quoi se plaignent encore les parents LGBTQ+. Le travail est pourtant loin d'être terminé. La reconnaissance légale est insuffisante pour parler de pleine reconnaissance ou d'égalité. Il y a encore plein de défis de représentation et d'acceptation sociale. Je commence le livre avec un exemple. Quand ma fille a commencé à l'école, on lui a posé les questions classiques, dont « Comment s'appellent ton papa et ta maman ?» Elle a répondu qu'elle n'avait pas de papa. La professeure n'a pas pensé à demander si elle avait une autre maman. Ça indique qu'on intériorise encore fortement le modèle hétéronormatif comme étant le seul. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça implique aussi que des parents doivent composer avec les visions des amis, de l'école, de la garderie et de leur parenté sur leur choix. Serais-tu d'accord pour dire que c'est souvent comme avancer avec un vent de face? Effectivement. Cela dit, le livre montre qu'il y a beaucoup de fierté et de résilience dans plusieurs familles et que le réseau est super important. Plusieurs personnes sont en appui à nos familles. Plusieurs d'entre elles nous ont parlé de la présence des grands-parents, des amis, de la fratrie. Ce sont des réseaux essentiels à la survie, au maintien et au bien-être de la famille. Info. Famille Queer de Marianne Schbatt, les éditions du Remue-Ménage 2024. C'était le livre qui célèbre les familles queer du Québec, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, paru le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue.
La Vérif. La Colombie-Britannique championne de la construction de logements? Un texte de Jennifer Maguire, paru le 24 septembre 2024 sur Ici Colombie-Britannique. Le chef du nouveau Parti démocratique, NPD, David Eby, le répète en conférence de presse, citation, « Nous avons ajouté plus de logements par habitant que n'importe quelle autre province au cours des 7 dernières années. Nous construisons 4 fois plus de logements locatifs que la province de l'Ontario. » Fin de citation. La Colombie-Britannique est-elle véritablement la championne de la construction de logements au pays, comme l'affirme David Eby? C'est vrai, mais il faut clarifier les données utilisées. Première en proportion de la population. Le total des mises en chantier de logements résidentiels des 7 dernières années en proportion de la population de la province est le plus élevé au pays. La Colombie-Britannique est ainsi suivie de l'Alberta, de l'Île-du-Prince-Édouard et de l'Ontario. Selon les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, SCHL, la Colombie-Britannique a enregistré un total de 295 731 mises en chantier de logements de type propriétaire-occupant, locatif, copropriété et coopératif entre juillet 2017 et juin 2024, pour une population qui s'établit à 5,65 millions d'habitants en juillet 2024, selon Statistique Canada. Ainsi, la proportion de mises en chantier résidentielles s'établit à 5 237 par 100 000 habitants dans la province pour les 7 dernières années. Une déclaration qui manque de précision. Lorsque David Eby avance que la Colombie-Britannique construit 4 fois plus de logements locatifs que la province de l'Ontario, des nuances s'imposent. Cette affirmation est exacte uniquement lorsque les données sont calculées en proportion de la population et pour le deuxième trimestre de 2024. Lors du deuxième trimestre de 2024, il y a eu 3 947 mises en chantier de logements locatifs en Ontario. Le nombre s'élève à 5 504 en Colombie-Britannique. En divisant ces nombres par les populations respectives des provinces en juillet 2024, soit 16 millions d'habitants en Ontario et 5,65 millions d'habitants en Colombie-Britannique, il y a effectivement eu 4 fois plus de mises en chantier de logements locatifs en Colombie-Britannique qu'en Ontario. Un marché tiré par le locatif. Citation : Nous avons constaté que les gouvernements locaux et provinciaux de la Colombie-Britannique préfèrent les logements locatifs aux logements en copropriété. Fin de citation, indique Tom Davidoff, professeur associé à la Souder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique. Citation : Il y a une certaine logique à cela, car un grand nombre des ménages les plus démunis ne seront jamais propriétaires d'un logement. Fin de citation, ajoute le professeur. Si 5 504 mises en chantier de logements locatifs ont été rapportées en Colombie-Britannique pour le deuxième trimestre de 2024, le nombre pour les copropriétés s'élève à 4 648. En Ontario, le nombre de mises en chantier pour les copropriétés, soit 8 442, dépasse largement celui des logements locatifs pour le même trimestre. Tom Davidoff estime également que la construction de logements locatifs dans la province est facilitée par le financement offert par BC Housing, ainsi que par l'assouplissement des règles de zonage découlant de la modification de la loi sur les administrations locales, notamment. C'était La Vérif, la Colombie-Britannique, championne de la construction de logements, un texte de Jennifer Maguire, paru le 24 septembre 2020.